Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Que cachent les sorcières? Vous avez vu ce beau générique? C'est notre série de cette semaine. Vous allez le voir, la figure de la sorcière ouvre des chemins de réflexion divers et passionnants. Premier épisode, les sorcières dans l'histoire, réalité ou réalité fantasmatique? Ont-elles existé, ces dames, un peu excitées, tournant leurs baguettes dans des potions magiques, jetant des sorts, faisant peur aux enfants? C'est assez vertigineux quand on y réfléchit, mais oui, la question continue d'agiter les historiens. Car si les accusations de sorcellerie, les procès et les bûchers ont vraiment existé, c'est presque toujours du point de vue des accusateurs que toutes ces victimes sont évoquées. Qui étaient-elles vraiment? Des adeptes de cultes hérétiques, désormais connus, de messes noires réellement offertes à des divinités singulières, ou bien n'étaient-elles que des objets de fantasmes, tenaces, seule chose en vérité à étudier? Dans notre histoire, il y a eu en tout cas un arbitraire terrible des accusations de sorcellerie. On retrouve cela aujourd'hui sur le continent africain où beaucoup de personnes se retrouvent emprisonnées du jour au lendemain pour suspicion de sorcellerie. Mais dans notre histoire occidentale, vraiment peut-on dire que n'importe qui pouvait se retrouver piégé? Pourquoi tant de femmes? Pourquoi tant de femmes condamnées pour sorcellerie, 80% dans la période du 15e au 17e siècle en Europe, en Amérique du Nord? Que se joue-t-il entre le féminin et le fantasme de sorcellerie? Bonjour Armelle Lebras. Chopard.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en sciences politiques. J'ajouterai, vous êtes la première femme qui a réussi en France l'agrégation de sciences politiques. Je ne me trompe pas?
Non.
Au début des années 70. Et vous vous êtes penchée sur les femmes accusées d'être des sorcières dans un livre paru chez Plomb en 2006, repris 10 ans plus tard chez Dalloz, Les putains du diable, le procès en sorcellerie des femmes. Bonjour Martin Rueff.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Genève, traducteur, poète, spécialiste entre autres de l'œuvre de l'historien Carlo Ginzburg. Ça tombe bien, il a beaucoup travaillé sur sorciers et sorcières. Nous parlerons en particulier de son livre de 1992, Le Sabbat des sorcières.
En Berry, au centre géographique de la France, aux confins de la Vallée Noire, dans le pays de Georges Sand, la grande bête rôde encore les soirs de mauvais vent. Dans cette région morcelée en petites fermes, le sorcier fait toujours recette. Son influence est réelle, heureuse ou maléfique. C'est à sa recherche que nous sommes partis, et peut-être avons-nous parfois frôlé le diable son maître. Un village comme tant d'autres. Mais depuis de longues années, la boulangerie y est ensorcelée. Le pain ne lève plus, le boulanger est tombé malade. Bientôt la boutique sera à vendre. Comme tous les après-midi, la boulangère est partie vendre son pain de ferme en ferme. Dans le village, ceux qui savent murmurent que c'est une commerçante rivale qui a jeté un sort sur la boulangerie.
Mais vous, quand vous croisez cette personne, quand elle passe devant la boulangerie...
Elle ne veut pas me dire bonjour.
Non, mais elle vous regarde.
Tout à l'heure, non. Mais elle a été qu'elle me regardait.
Alors vous, qu'est-ce que vous faisiez là?
Eh bien, je vous dis, j'y faisais le signe de croix, j'y faisais toutes sortes de... La gendarmerie m'avait dit d'y faire le signe de croix. Moi, j'y ai fait.
Ça suffisait, ça?
Ben oui, elle avait tout... Elle sautait en l'air comme un lapin à la rue, alors.
Quand vous lui faisiez le...
Oui, la première fois de toutes, tout de suite après l'histoire du pain. Alors, j'en étais dans là, moi et mon mari, quand elle nous a vus, mais elle sautait en l'air, dans la rue, intenable, c'était comme une folle. S'il n'y avait rien eu, elle n'aurait pas fait ça. Bon, moi, je voulais pas me mettre à sauter en l'air.
Mais, à votre avis, quelle attaque, là? C'est votre mari qui est malade?
Moi, oui, elle a toujours attaqué mon mari.
Et... Et cette petite bête, alors? C'est quoi?
Ah ben cette petite bête, c'est ça que moi j'appelle la petite bête, parce que nous on a tellement cherché ça qu'on en disait c'était la petite bête. C'est cette sorcellerie que j'appelle la petite bête.
Vous venez d'entendre un reportage de l'ORTF de 1971 sur les sorcières du Berry. Et comme vous l'entendez, eh bien cette dame y croit dur comme fer, Armelle Lebras-Chopard. Il y a une sorcière qui s'est agitée dans la rue, qui lui a jeté un sort, et c'est la raison profonde pour laquelle son pain ne lève pas. Les années 70 quand même, au XXe siècle, vous n'êtes pas surprise?
Si, je suis quand même un peu surprise.
D'accord.
Oui. Mais en même temps, ce ne sont pas des sorcières, ce n'est pas une sorcière démoniaque. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout l'arrière-fond qu'on trouve du 15e à la fin du 17e siècle où c'est véritablement le diable qui a donné ses pouvoirs à la sorcière.
Mais ça donne quand même l'impression qu'avant de faire une sociologie des pseudo-sorcières, il faut faire une sociologie des gens qui pensent qu'il y a des sorciers. L'étonnement, il est d'abord sur cette croyance plus que sur la pseudo-réalité invoquée, non?
Oui, c'est sur la croyance, mais disons que c'est tout de même pas général de ne pas aller à la boulangerie parce que on pense que il y a une sorcière qui tient la boulangerie.
Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Martin Rueff, vous qui avez travaillé sur Carlo Ginzburg, qui précisément nous incitait à nous intéresser plus à ceux qui accusent qu'aux accusés?
Oui, je crois que ce qui est frappant dans ce passage que nous venons d'entendre, c'est le fait que la question de la sorcellerie, et vous le disiez en introduction, interroge aussi le philosophe, parce que ce qui est en jeu, ce sont des processus d'efficacité.
Oui.
On constate des effets, donc le pain ne lève plus. Et entre l'effet et la cause, on va essayer de placer des chaînes de causalité. Et disons que ici, du point de vue philosophique, ce qui intervient, c'est une causalité qui pour nous est irrationnelle, qui est cette gymnastique athlétique d'une espèce de danse ensorcelée devant la boulangerie. On notera que la personne qui est interrogée accorde aussi beaucoup de crédit à la maréchaussée, puisque c'est la gendarmerie qui lui indique de faire un signe de croix. Donc, on ne sait pas tellement dans cette affaire où est la rationalité, où est l'irrationalité. En revanche, ce qui me plaît de souligner ici, c'est que le premier article que Carlo Ginzburg ait jamais écrit, qui est un article de 1961, c'est un tout jeune historien, il a 22 ans, il est de 39, s'intitule, et je crois que le titre de cet article répond à votre remarque, il s'intitulait « Sorcellerie et piété populaire ». Il faut qu'il y ait de la piété populaire pour qu'il y ait de la sorcellerie. Et comme le disait madame, ensuite, la manière dont cette piété populaire affuble, disons, la sorcellerie d'oripeaux et de structurations symboliques profondes. Alors ça, c'est des processus historiques très longs et aussi qui nécessitent au moins cette émission.
Alors, je vais vous laisser nous présenter Carlo Ginzburg. Je vais juste donner 2-3 éléments biographiques, mais sur sa personnalité, notamment sa filiation avec un père qui n'a pas eu un destin ordinaire. Vous allez tout nous expliquer. Carlo Ginzburg est toujours vivant. Il est l'auteur, en 1966, des Batailles nocturnes, sorcellerie et rituels agraires en Frioul. 16e, 17e siècle, c'est important le Frioul, on dira pourquoi, c'est son terrain d'étude. Plus tard, il a écrit Le Sabbat des sorcières, en 1989, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Il faut aussi citer Le fromage et les vers, une grosse étude toujours sur le Frioul, de 1976, qui a fait d'ailleurs sa notoriété internationale. Je vous écoute pour la présentation du monsieur qui est un grand monsieur, comme son père était un très grand monsieur.
Oui, merci. En effet, Carlo Ginzburg est une figure tout à fait importante de l'histoire culturelle et intellectuelle italienne et aussi européenne. Il est né en avril 1939 de Leone Ginzburg, qui était une figure essentielle de la lutte antifasciste dans les années 30, un Turinois proche de Pavès. C'est lui qui a créé avec Einaudi, la grande maison de culture antifasciste, et puis de Natalia Ginzburg, une des plus grandes romancières italiennes du XXe siècle. Et jeune étudiant, il remporte le concours de la normale di Pisa, normale sup. Et après une très légère hésitation, parce qu'il a un instant pensé devenir peintre. Il se consacre à l'histoire et il a expliqué comment il était devenu historien à plusieurs reprises, hein, mais c'est notamment un livre très important pour notre propre historiographie, puisque c'est le livre de Marc Bloch, Les Rois Thaumaturges, hein, oui, qu'il a orienté vers l'histoire. Les Rois Thaumaturges étant un livre qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans notre champ d'intérêt aujourd'hui, puisque c'est un livre sur l'efficacité symbolique que la piété populaire prêtait au roi, hein, puisqu'on prêtait au roi, comme aujourd'hui peut-être à certains de nos dirigeants dans certains pays, toutes sortes d'efficacités irrationnelles. Et donc, dès sa sortie de scolarité, dès le début des années 60, comme je le disais, hein, il s'intéresse à des procès d'inquisition. C'est vraiment un historien de terrain, hein, Carlo Ginzburg, avant d'être devenu un épistémologue de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il enquête sur des archives d'État qui sont parfaitement conservées, aussi bien Modène, l'article dont je parlais tout à l'heure, qui porte sur une sorcière, hein, son premier article est sur une sorcière, donc je me plais à le rappeler, Chiara Signorini, c'est un procès dont les archives sont à Modène, dans les archives di Stato. Et ensuite, comme vous le disiez, Géraldine, il s'est déplacé dans le Frioul, et on peut dire qu'il est l'auteur d'une trilogie qui a révolutionné, peut-être j'essaierai d'expliquer pourquoi, hein, l'approche historique, historique, pas théorique, historique de la sorcellerie. Un livre de 66, hein, I Benedanti, qui devient Les Batailles Nocturnes en 80 chez Verdier. Alors, il y a des problèmes de traduction des titres, hein, oui. Il faudrait passer beaucoup de temps à expliquer ça. Il Formaggi e Vermi de 76 devient Le Fromage et les Vers, donc ça c'est bien. Mais Storia Notturna, una decifrazione del sabbat, Histoire Nocturne, un déchiffrage du sabbat, devient Le Sabbat des Sorcières. Et donc, met en avant la question des sorcières dans ce livre, alors que le héros de ce troisième volume, hein, de 89, c'est plutôt le sabbat.
Mais nos auditeurs pourraient se dire, mais enfin, c'est pas une émission d'histoire, c'est une émission de philo ici. Pourquoi font-ils appel à un historien, enfin, à Carlo Ginzburg? Pourquoi cette référence? Eh bien, je soutiens que c'est pour des raisons vraiment philosophiques. C'est-à-dire que Carlo Ginzburg s'est intéressé aux petites choses. Il y a une vraie réflexion sur le petit, la micro-histoire. Et d'autant plus qu'il avait affaire sur cette question du rapport aux sorciers, comme nous l'avons dit pour la sorcière du Berry, dans l'extrait sonore que vous avez entendu, à propos de cet extrait sonore, eh bien, en vérité, il y avait pas mal de thèses qui circulaient. Ah oui, les sorcières, il y avait un culte païen qui traînait au Moyen-Âge, il y avait des vrais sabbats, des vraies messes noires, etc. Et Ginzburg a mis tout le monde en garde et a dit, mais attendez, on n'a pas vraiment de preuves matérielles de tout cela. Là, c'est les seules preuves matérielles que nous ayons, c'est ce qui se passe manifestement dans la tête des persécuteurs. Il a recentré la question de la sorcellerie sur les accusateurs de sorcellerie. C'est un geste très important. J'aimerais bien que vous le commentiez et surtout j'aimerais savoir si ça n'a pas un petit rapport avec l'histoire de son père, du fascisme, de l'ambiance des villages fascistes où on imaginait plein de choses sur un mode quasi paranoïaque, Martin Rueff.
Oui, vous avez parfaitement raison de souligner cette filiation. Alors, je dirais deux choses. D'une part, c'est que, en dépit de sa prudence épistémologique, Carlo Ginzburg est véritablement un historien qui parle aux philosophes. Et il leur parle, je dirais, sur trois plans. Le premier plan, c'est un plan central pour la philosophie qui est celui du statut des discours, c'est-à-dire comment restituer des discours? Et de fait, c'est une question, on le verra peut-être ensuite, qui est une question très importante pour Foucault aussi, hein, à des titres divers, mais qu'est-ce que ça veut dire citer? Comment on accède à la vérité d'un discours? Et la question centrale de Ginzburg consiste à dire, en fait, on s'imagine que quand on cite les propos d'autrui, on les déforme, mais peut-être que dans cette déformation même, on entend ce qu'il appelle la voix des autres. Le deuxième plan sur lequel Ginzburg nous renseigne et informe la philosophie, je crois que c'est la question des modalités de déduction. Comment on déduit?
Voilà.
Et donc c'est un auteur, etc., pour ça très intéressant, parce qu'on est obsédé par les modalités d'induction et de déduction en philosophie, et Ginzburg introduit un troisième terme, ce qu'il appelle le paradigme indiciaire, hein, qui est la reconstitution de chaînes de rationalité qui ne vont pas du singulier au général comme dans l'induction, qui ne vont pas du général au singulier comme dans la déduction, mais qui construisent des schémas de singularité, hein, d'une voie singulière à une voie singulière. C'est ce qu'il appelle le paradigme indiciaire. Et il l'emprunte, dit-il, à une synthèse qu'il opère entre des historiens d'art, Morelli, un enquêteur célèbre, Sherlock Holmes, et un enquêteur non moins célèbre, Sigmund Freud. Et puis le troisième niveau, qui est important, et qui nous permet, je crois, de débattre aussi avec madame, hein, qui est la question des mentalités. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut repenser la question des mentalités? Quel est le statut de rationalité des discours de mentalité? Alors, enfin, vous le disiez, et ça c'est très important, même s'il a avoué lui-même qu'il y était, il avait pris conscience de ce processus très tard dans son parcours intellectuel, hein, évidemment, Ginsburg est un historien des discours subalternes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que... avec ses parents. Rappelez qu'est-ce que c'est qu'un confino?
Alors, Léoné Ginsburg, comme Cesare Pavese, qui est peut-être plus connu des auditrices et des auditeurs, hein, est un intellectuel antifasciste qui s'inspire de Rosselli et de Gobetti, c'est-à-dire ce qu'on appelle les libéraux, hein, c'est l'opposition libérale au fascisme. Et cette opposition a fait que le fascisme, en se durcissant, hein, a entraîné le confinamento, c'est-à-dire le fait d'exiler à l'intérieur de l'Italie des intellectuels pour les couper de leur milieu d'opération. On les condamnait pas à mort, si vous voulez, hein, on les exilait, on les cantonnait, voilà, on les cantonnait. Et donc
dans un village, excusez-moi, j'avance parce que je voudrais qu'on arrive au sorcier. Ce n'était qu'un préambule. Donc il est exilé, si j'ose dire, à l'intérieur de l'Italie. Son père, Léoné Ginsburg, à Pizzoli, c'est comme ça qu'on dit, j'espère.
Dans les Abruzzi.
Dans les Abruzzi. De 1940 à 43, donc un village refermé sur lui, dans une ambiance fasciste, le délire, les fantasmes, la paranoïa. Le petit Carlo a été, si je puis dire, vacciné très vite. Il a vu ce qui se passait entre les êtres humains dans des petits villages de ce genre.
Ben, il a vu deux choses. Il a vu d'une part, évidemment, l'extraordinaire violence qui s'exerçait sur les Juifs. Et on a tort de penser que la violence contre les Juifs a été le fait des seuls Allemands. Hein. Les Italiens n'avaient rien à envier. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais enfin bon, il a été témoin de ceci, et il a été témoin aussi de des mentalités paysannes, de la culture paysanne, et il dit souvent, hein, que parmi les livres qui l'ont le plus impressionné, il y a le Christ s'est arrêté à Eboli, qui est un livre qui porte sur la question des mentalités populaires, et le livre de Demartino, Le Monde Magique, hein, qui est un livre tout à fait extraordinaire sur la question de la magie et de l'irrationalité dans les cultures populaires, vu plutôt comme résistance, si vous voulez, hein, que comme passivité, que comme culture arriérée. Et en effet, voilà le contexte, si vous voulez, intellectuel et personnel, dans lequel a mûri une des plus profondes réflexions sur la sorcellerie en histoire.
Alors on y va, on en parle, et du coup, je me tourne vers vous, Armelle Lebras-Chopard, de même que Carlo Ginsburg avait le fascisme en tête quand il travaillait sur la sorcellerie, de même que Arthur Miller, quand il écrit Les sorcières de Salem, en anglais The Crucible, en 1953, cette pièce de théâtre qui deviendra un film en 1956, avait en tête le maccartisme, et qu'on a donc appelé la chasse aux sorcières, alors même qu'il évoquait, lui, ce qui se passait en 1692, ce qui s'est passé à Salem, dans le Massachusetts, où des dizaines de personnes ont été pendues, dont beaucoup de femmes accusées de sorcellerie, dans un délire collectif dont on cherche encore les causes, hein. Peut-être qu'ils ont été empoisonnés par des trucs qu'ils ont mangés, il y a plein d'hypothèses. Et bien de même, est-ce que Armelle Lebras-Chopard avait des angoisses politiques lorsqu'elle s'est penchée, donc vous Armelle, sur les questions de sorcellerie?
C'est surtout le lien avec le politique et la façon dont les femmes ont été massacrées, hein, au moment de la chasse aux sorcières, et puis ensuite exclues. Donc le lien avec la construction de l'État moderne, où à un moment donné, les procès vont s'arrêter, après avoir duré plus de deux siècles. On ne fait plus de procès de sorcières, et on peut se demander pourquoi tout d'un coup elles disparaissent. Alors certains ont avancé que c'était parce que tout d'un coup les hommes, puisque ce sont uniquement des hommes qui condamnent les sorcières, hein, l'inquisiteur, le magistrat, le bourreau, l'expert, etc., etc. tout d'un coup, ils auraient été illuminés, ils auraient été touchés par les lumières, ils auraient compris. Alors qu'on sait que le XVIe siècle est le grand siècle des découvertes, y compris des découvertes scientifiques. Donc, ils auraient pu être éclairés un peu plus tôt. Donc, moi, je me suis demandé, mais pourquoi ça, non seulement pourquoi ça a eu lieu, ça c'est une autre histoire, mais pourquoi ça s'est arrêté?
Oui.
Et à mon avis, ça s'est arrêté parce que il y avait une peur des femmes, on pourrait revenir là-dessus, mais ça s'est arrêté parce que on a trouvé un autre moyen de soumettre les femmes. Et comment les a-t-on soumises? Il y a un long mouvement depuis le XIIe siècle de retour au droit romain. Le droit romain avec le droit du pater familias qui se conjugue jusqu'à au niveau de l'État avec Bodin, par exemple. Et à ce moment-là, on limite de plus en plus l'autonomie grandissante des femmes depuis le XIIe siècle, qui est due à des facteurs économiques, les grandes foires, le fait qu'elles pouvaient avoir un commerce, etc., etc. Donc là, c'est la loi, puisque l'État a acquis, construit sa souveraineté.
Oui.
Et au moment où il construit sa souveraineté, il ne la construit pas seulement, comme dit Mouchembled, pour avoir un sujet obéissant, mais surtout pour avoir une sujette obéissante.
Oui.
Et à ce moment-là, la loi va prendre le relais des procès, mais ce sont toujours des hommes qui font la loi à ce moment-là, et on va arriver comme ça, tranquillement, jusqu'au Code civil de 1804, où là, c'est tout à fait bien arrêté, la femme est sous la tutelle du mari ou de son père.
Donc au fond, votre question politique à vous, Armelle Lebras-Chopard, c'est la domination des hommes sur les femmes dans la construction même du processus politique. C'est pas en soi, c'est-à-dire vous êtes une théoricienne du politique et vous vous dites au fond cette histoire de sorcière, ce qui se jouait fondamentalement, c'était la construction de l'État avec une forme d'asservissement mine de rien, et le féminin a été une cible première, c'est ça mon sujet. Ce qui veut dire que la réalité de ce que ces femmes pseudo-sorcières voyaient, si vraiment il y avait un sabbat, tout ça vous en fichez complètement. Pour vous, vous êtes comme Ginsburg, vous vous dites, mais le vrai sujet, ce sont les accusateurs, ce sont les fantasmes de tous ces messieurs.
Absolument. Et donc, moi, j'ai construit mon ouvrage à partir du discours de ces messieurs, c'est-à-dire les inquisiteurs, enfin, quelques inquisiteurs, magistrats, confesseurs de sorcières et experts et aussi médecins.
Donc notre objet d'aujourd'hui pose la question des fantasmes, peut-être bien plus encore que de la réalité historique. Je laisse ça aux historiens, il y a eu des cultes païens. La question c'est surtout celle des représentations et de l'arbitraire souvent des accusations. Alors ça fait pas si longtemps en Europe et en Amérique du Nord qu'on a cessé de persécuter les sorcières, ce qui invite me semble-t-il à beaucoup d'humilité à l'égard de ce qui se passe en ce moment au Ghana ou dans d'autres pays du continent africain. Je pense en particulier à la République centrafricaine. Il y a des gens qui travaillent sur le caractère extrêmement violent des accusations de sorcellerie arbitraire. Beaucoup de femmes sont concernées. Là, je vous propose juste pour qu'on ait ça en tête, sur France 24, d'écouter un reportage sur les sorcières au Ghana.
Elles sont appelées sorcières. Dans ce camp à Kouoko, dans le nord du Ghana, vivent 113 femmes, dans une prison à ciel ouvert. Bannies de la société, elles sont coupées de leur famille, sans ressources, après avoir été accusées de sorcellerie. Pour cette femme, Asia Foucheini, l'enfer a commencé il y a 6 mois, quand des hommes ont encerclé sa maison. Ils l'accusent d'avoir tué, par sorcellerie, une voisine de son village.
J'ai entendu une foule réunie devant chez moi. Puis quelqu'un a passé la tête par-dessus le mur et a dit « Une femme est morte et c'est de ta faute. C'est toi qui l'as tuée. On va te tuer. » Je lui ai répondu « Mais comment j'aurais fait? Je ne la connais même pas. »
Pour sauver sa peau, elle accepte de partir et de venir vivre dans ce camp.
Je n'aurais jamais cru que ça allait m'arriver à moi, qu'un jour je serais accusée de sorcellerie et envoyée ici. Je ne crois même pas en la sorcellerie.
Sans aucun jugement, ces femmes sont condamnées, souvent par le chef du village, à vivre recluses dans ces huttes, parfois avec leurs enfants. Et il n'y a aucune loi pour interdire cela.
Reportage de France 24, donc sur un camp de sorcières au Ghana en janvier 2022. Et ce n'est pas du tout le seul pays concerné. Armelle Lebras-Chopard, beaucoup de femmes une nouvelle fois. Quelque chose... Enfin, on a beau jeu, nous, de regarder ça en souriant. En 1972, comme nous l'avons vu, ou 71, on avait encore des gens qui pensaient la même chose en France, dans le Berry. Donc, au fond, il y a peut-être une espèce d'universel humain à construire des personnages féminins terrifiants.
Ce qui est intéressant, et c'était votre premier reportage, c'est que ça se situe toujours plus ou moins à l'intérieur de la religion, quelle qu'elle soit. Alors, votre premier reportage dans le Berry, tout d'un coup, on voit arriver un signe de croix. Le signe de croix, c'était un des signes qui permettait, quand la sorcière était sur son balai et en avait assez d'aller au sabbat, ça la faisait tomber automatiquement, par exemple. Donc, c'est à l'intérieur de religion, alors ça peut... Pour les sorcières en Occident, entre le 15e et le 17e siècle, c'était le christianisme. Je dis bien le christianisme, hein, c'est-à-dire religion catholique d'abord, évidemment, oui. Mais réforme ensuite. Hein, les protestants ont été redoutables. Hein,
dans le Massachusetts, les sorcières de Salem, c'est...
Exactement. Ça, hein. Il faut savoir que les procès de Salem se sont arrêtés quand on a commencé à, un petit peu d'ailleurs comme en Occident, comme en Europe, quand on a commencé à accuser tout le monde, y compris des femmes de magistrats. Donc là, tout d'un coup, ça s'est arrêté.
Alors, ce qui est assez terrible, c'est que malgré tout le travail qu'a fait Ginsburg, etc., longtemps, lorsqu'on parlait même dans l'histoire des sorcières, on suggérait qu'il y avait beaucoup de réalité derrière tout ça. Écoutez, par exemple, cette façon de donner réalité aux histoires de sorcières dans les propos d'un conservateur, Maxime Préau, qui avait organisé en 1973 une exposition sur les sorcières à la Bibliothèque nationale. C'est glissant tout le temps, c'est un peu gênant, alors que Ginsburg, ça commençait déjà à exister, ces travaux.
Pour l'organisateur de l'exposition, Maxime Préau, conservateur au cabinet des estampes et expert en démonologie, les pratiques de sorcellerie étaient d'abord une sorte de démarquage à l'envers des cérémonies chrétiennes.
Ben, le sabbat, c'est en gros, si vous voulez, c'est la messe noire. Hein. On fait exactement le contraire de ce qui se passe à la messe catholique. On piétine l'hostie au lieu de l'élever comme dans l'élévation, par exemple. On mélange hommes et femmes alors que dans l'église, on les séparait. Pour se rendre au sabbat, on utilisait généralement un onguent qui était un composé de diverses plantes qui mélangées ensemble formaient une drogue. Et ces sorcières s'enduisaient donc le corps de cet onguent et se frottaient le corps très, très vivement, de façon à ce que la drogue pénètre bien. Mmh. Et ensuite, c'était le voyage, si vous voulez.
Le fameux voyage des hallucinogènes actuels.
Exactement la même chose.
On voit sur certaines estampes des sorcières qui sont, comme on dit un peu vulgairement, parties, qui ont les yeux révulsés. Elles étaient dans un état second.
Exactement, oui, c'est exactement ça. On me rappelle une expérience réalisée. On avait une sorcière s'était enduite d'onguent et était tombée comme morte par terre. Et puis elle avait dormi d'un sommeil profond pendant 3 heures. On pouvait la battre, on pouvait essayer de lui brûler la plante des pieds, par exemple, un moyen de la réveiller. Et quand elle s'est relevée, elle s'est mise à raconter des détails absolument incroyables sur tout ce qu'elle avait pu faire pendant ces 3 heures de sommeil. Mmh. Or, elle n'avait pas évidemment bougé de la maison.
Et là, ce que vous entendez, c'est un reportage de France Inter de février 1973 à propos donc d'une exposition. C'est intéressant quand même, là, Martin Rueff, vous qui connaissez très bien Carlo Ginsburg, ces travaux qui mettent en doute l'existence des sorcières. Là, vous avez une exposition qui se veut quand même très... faite par des gens, très bons historiens, qui suggèrent quand même qu'il y avait des femmes, alors, possédées, sorcières, vivant des trucs bizarres. C'est pas les fantasmes des persécuteurs qui sont au premier plan, contrairement à ce que demandait Ginsburg. Ce sont ces pauvres victimes auxquelles on prête toute une vie intérieure bizarroïde.
Oui, je dirais deux choses, si vous voulez. La première, c'est que un des premiers axes du travail de l'historien Ginsburg a été de distinguer ce qui, dans la sorcellerie ou dans l'image qu'on se fait des sorcières, relève du rite et ce qui relève du mythe.
Oui.
Et il s'appuie pour les discuter sur les travaux d'une égyptologue très célèbre qui est Murray, qui avait écrit dans les années 20 un livre important, Le culte des sorcières dans l'Europe de l'Ouest.
Oui.
Et Murray, cette dame, croyait que les éléments définitoires de ce qu'est une sorcière relevaient de rites. Et donc, ce que les dames et les hommes disaient des sorcières étaient des choses qu'elles faisaient.
Oui.
Et un des points vraiment du travail de Ginsburg consiste à dire, et essayons de comprendre si ces éléments qu'on prête à des rites ne sont pas plutôt des éléments du mythe, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'ils voyagent plus facilement. Parce que si c'est des discours sûrs, on peut très bien évidemment faire voyager plus facilement des mythes que des rites. Et la deuxième chose, et ici je m'adresse aussi à vous madame, c'est que ce que fait Carlo, c'est pas simplement de partir du discours. Oui, il part comme vous du discours des inquisiteurs et des juges, si vous voulez, hein, donc du discours sûr. Mais sa conviction, c'est qu'à travers le discours sûr, on peut entendre le discours de ces femmes. Et ça, je crois que c'est une leçon de méthode très importante. C'est-à-dire que, comme dit l'historien, on a affaire à des documents, simplement. Les documents, ils sont rédigés par les vainqueurs ou par les gens qui instruisent les procès, évidemment. Mais à travers la voix des vainqueurs et des inquisiteurs, on entend des éléments tellement dissonants, ce qu'il appelle le hiatus, que là, on peut entendre la voix d'une sorcière ou d'une femme qui est jugée comme telle, en tout cas.
Et on n'entend pas forcément ce qu'on croyait.
Exactement.
C'est ça qui est intéressant.
Exactement.
On va écouter ce que dit Carlo Ginsburg. Voici un extrait du Sabbat des sorcières, de son livre de 1989, un extrait lu par notre équipe.
Sur la sorcellerie, c'est une évidence, mais qu'il n'est pas inutile de répéter, nous ne disposons que de témoignages hostiles, qui proviennent de démonologues, d'inquisiteurs et de juges, ou qui ont été filtrés par eux. Les voix des accusés nous arrivent étouffées, altérées et déformées. Dans de nombreux cas, elles ne nous sont pas parvenues du tout. D'où, pour qui ne veut pas se résigner à écrire pour la énième fois l'histoire du point de vue des vainqueurs, l'importance des anomalies, des fissures qui s'ouvrent parfois très rarement dans la documentation et viennent enfêler la cohésion. L'écart durable qui existe entre les récits des Benandanti et les stéréotypes des inquisiteurs laisse affleurer une couche profonde de mythes paysans, vécus avec une intensité extraordinaire. Peu à peu, à travers la lente introjection d'un modèle culturel hostile, celui-ci se transforma en sabbat. Des phénomènes analogues s'étaient-ils produits ailleurs? Jusqu'à quel point était-il possible de généraliser le cas, exceptionnel sur le plan de la documentation, des Benandanti? À l'époque, je n'étais pas en mesure de répondre à ces questions. Mais celles-ci me semblaient impliquer une façon en grande partie nouvelle de poser le problème des origines populaires de la sorcellerie.
Alors, il est important pour comprendre les enjeux, Martin Rueff, qu'on définisse les Benandanti. Ce sont des anti-sorciers, n'est-ce pas, qui ont essayé, prétendu chasser les sorcières, mais
exactement.
En fait, eux-mêmes se sont retrouvés accusés à un moment
oui,
donné.
Oui, voilà, ça, c'est très important de souligner ça. Ce qui intéresse Carlo Ginsburg, d'abord, ce sont ces gens qui sont accusés d'être des sorciers et qui disent, mais attendez, vous dites que je suis une sorcière ou un sorcier, alors que l'essentiel de ce que je fais, c'est de les combattre.
Et, oui.
Et les Benandanti, ce sont des figures donc populaires, souvent de paysans, hein, qui sont arrêtés pour sorcellerie et qui racontent aux juges de l'Inquisition, notamment dans le Frioul, qu'en fait, pas du tout. Alors, de fait, ils se retrouvent 4 samedis par mois ou à fréquence, en tout cas régulière. Ils font des rites, ils font des voyages chamaniques, donc ils voyagent sur des tiges de sorgho, comme ils le disent, hein. Et ils se retrouvent pour combattre, un peu comme dans ces films genre Twilight, où il y a des combats entre les bons vampires et les mauvais vampires, etc., entre gens à qui on prête des super-pouvoirs, n'est-ce pas? Mais eux, ils sont du bon côté. Et donc, en fait, là, c'est pas du tout un combat face à face entre les inquisiteurs et les sorciers. C'est des combats à trois, où il y a les inquisiteurs qui veulent faire des Benedanti des sorcières et des sorciers, alors que les Benedanti disent, non, non, nous, on est du bon côté, et nous, on va vous aider à lutter contre les sorciers et les sorcières.
Et là, il y a des hommes comme des femmes, on est d'accord.
Et là, il y a des hommes comme des femmes. Et le point important, me semble-t-il, c'est que cette figure de Benedanti, elle n'est compréhensible et elle n'est accessible à l'historien que si on prête attention, comme il le dit dans l'extrait que vous avez lu, hein, à cette couche profonde des mythes paysans qui affleure. Et si on s'en tient à un dialogue, sorcier-inquisiteur, on ne l'entend pas.
Oui. Armelle Le Bras-Chopin.
Trois points. D'une part, il y a Margaret Murek, qui d'ailleurs s'inspire de Bachofen, hein, sur le matriarcat, mais surtout...
A écrit, je finis votre phrase, elle a donc écrit en 1921 un livre où elle disait que les sorcières envoyaient des vrais mythes païens et Carlo Ginzburg a fait voler tout ça en éclats.
Absolument.
Ce sont des constructions fantasmatiques tout emboîtées en réalité.
Absolument, mais n'oublions pas Michelet, hein, le livre
absolument.
La sorcière,
merci
de... où il dit que le sabbat a existé et que c'était des femmes rebelles, comme si les femmes pouvaient à l'époque s'organiser. Et donc ça fait aussi beaucoup de tort au mythe et a fait croire au sabbat.
C'est-à-dire que c'était une espèce de romantisme. Michelet laissait entendre qu'il y avait des résidus d'irrationalité assez jolis, c'est ça,
que les femmes se réunissaient réellement. Et puis c'est une espèce de confusion avec en particulier ce qui se passait au Pays Basque où il y avait simplement des fêtes. Le deuxième point, et là je vous rejoins, on peut effectivement entendre ce que disent les sorcières à travers ce que finalement les inquisiteurs ou les magistrats leur font dire. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand les sorcières, il y en a plusieurs, qui expliquent comment en revenant du sabbat ou parce que justement elles n'ont pas voulu y aller, le diable leur a fracassé la tête avec un marteau, etc. Et le juge dit, et oui, la preuve que c'est vrai, c'est qu'effectivement, elles étaient toutes ensanglantées, vraiment mal. Ben, en fait, quand on y réfléchit bien, ça peut être que le mari ou le cadre. Et il y a comme ça des notations qui permettent de voir effectivement qu'était la vie, non pas d'une sorcière, mais simplement...
Donc ce qu'on voit en dessous, une fois qu'on a analysé le discours des juges, des dominants, même des benandanti, c'est-à-dire ces gens qui prétendaient lutter contre les sorciers et les sorcières en utilisant leurs armes et en étant du côté du bien, même si certains se feront quand même accuser. Mais quand on enlève tout ça, toutes ces couches de fantasmes et de représentations, à la fin, ce que vous dites, Armelle Le Bras-Chopin, c'est qu'on a une pauvre femme qui s'est fait taper dessus et à qui on prête des tas de trucs complètement délirants, renvoyant d'ailleurs plutôt au délire des dominants.
Complètement. Et à propos des Benedanti, vous dites que c'est quelque chose qui se passe à Troyes. Et c'est là que ça devient politique. C'est-à-dire que... En Europe, en fait, on voit que au départ, c'est l'Église, les inquisiteurs, le pape qui nomme les inquisiteurs. Mais comme l'Église ne peut pas verser le sang, il faut une partie des procès, qu'on appelle des procès mixtes, où les magistrats interviennent. Oui. Les magistrats interviennent de plus en plus dans la procédure. Et à un moment donné, et là on revient au Benedanti, on a un jeu à trois. C'est-à-dire que la sorcellerie, les procès en sorcellerie sont une sorte de prétexte, entre guillemets, pour finalement se retourner contre l'Église. Et on va de plus en plus accuser des prêtres, et puis on arrive même au...
Oui, c'est un bon coup politique, l'accusation de sorcellerie.
Il s'agissait...
On se débarrasse de ses ennemis comme on veut, et surtout s'ils sont féminins, c'est encore plus facile.
Absolument, là c'est un prétexte, mais qui s'ajoute... dans cette lutte pour le pouvoir et la souveraineté.
Oui.
Pour que la souveraineté s'établisse, il faut que l'Église cède son pouvoir.
Martin Rueff.
Oui, ce qui est dit ici, là, me semble-t-il, de la première importance. D'ailleurs, je jetterai une pierre en faveur de Michelet, parce que Carlo Ginzburg le cite au moins deux fois, donc La sorcière, c'est 1862, et Michelet, derrière, comme vous l'avez bien dit, une espèce de projection fantasmatique, fait quand même de La sorcière une figure de l'opposition populaire. Et donc, si vous voulez, il y a cette conviction qui fait partie de ce qu'on peut appeler, après Levy, le romantisme révolutionnaire, qu'on pourrait trouver des figurations d'une opposition. Et d'ailleurs, dans un texte récent où il revient sur le sabbat des sorcières, Ginzburg dit oui, il y avait chez Michelet le sentiment que avec la sorcière se jouait quelque chose qui était de l'ordre de la lutte des classes.
Oui.
Et donc il prend ça à Gramsci. Ce que je crois très important, au-delà, si vous voulez, de ce que nous sommes en train de dire là, c'est que la question de la sorcière fait se croiser chez Ginzburg, mais il me semble aussi dans votre œuvre, madame, deux questions fondamentales. La première, c'est la question de savoir comment rendre justice à des êtres, qui avant d'être des figures sont des êtres, des sujets, des gens qui ont des noms propres, des destins, etc., qui ont été pris dans des machinations juridico-politiques et qui ont dû subir une violence qui n'était pas simplement symbolique, mais bien réelle. Et puis, il y a une deuxième question qui n'est pas centrale dans l'œuvre de Ginsburg, il faut quand même le dire, qui est la question du féminin.
Oui, elle n'est pas centrale.
Elle n'est pas centrale. Oui. C'est-à-dire que chez Carlo Ginsburg, la sorcière est bien une femme condamnée. Il est très sensible aux violences que subissent ces femmes. Il n'est pas du tout indifférent à la question du genre. Mais la question de la sorcière n'est pas une question particulièrement genrée, comme on dirait aujourd'hui. Hein, donc je pense que ça, il faut le dire, peut-être pour des questions de génération, etc. Mais surtout parce que ce qui se joue pour Carlo Ginsburg, pardonnez-moi, c'est au-delà de ça, la question de la défense des discours subalternes, il emploie ce mot très tôt, dès la fin des années 60, et la défense des classes subalternes. Et l'idée que l'historien est pas simplement quelqu'un qui va rétablir les subalternes dans leur histoire, mais dans leurs droits. Hein, il dit même à la fin de Fromage et les Verts, il dit rédimer. Il y a une rédemption des classes subalternes par l'historien, qui est d'ailleurs une tâche de Benjamin. Benjamin fait ça aussi, il dit
alors,
ça aussi.
Qu'est-ce qui se cache derrière les sorcières? C'est notre série cette semaine. C'est bien une série de philo, même si nous sommes obligés de parler un peu des historiens face à cet objet, parce qu'il y a des tas de débats historiographiques, d'où l'importance de Carlo Ginsburg, dont nous parlons entre autres ce matin. Je suis en compagnie de Martin Rueff et d'Armel Lebras-Chopard, en posant cette question, les sorcières dans l'histoire, réalité ou réalité fantasmatique? Alors, le fait qu'elles soient des femmes, pour vous, Armel Lebras-Chopard, c'est
là,
très,
je suis pas avec
très
vous,
important.
Hein. Non, mais c'est typiquement, typiquement genré. Il faut savoir que c'est un. Les inquisiteurs, les magistrats qui écrivent sur leur propre procès le disent. C'est un crime de femme, c'est l'hérésie des femmes. Et là où il serait bon d'insister, c'est sur ce que, justement, eux disent, sur la nature de la femme, où ils vont finalement entériner nombre de stéréotypes qui valent toujours aujourd'hui.
C'est-à-dire
La femme est une sorcière potentielle.
À cause de quoi? De son désir sexuel? C'est quand même ça ce que vous dites essentiellement. C'est que c'est pas le fait qu'elle soit, par exemple, des désirs d'être une savante. Ça ne touchait pas que des femmes qui avaient peut-être des velléités d'être des petits médecins faisant des potions de campagne. C'est le sexe qui fait flipper tout le monde. C'est-à-dire, c'est le désir.
Il faut revenir à la base, c'est-à-dire à l'utérus. Hein. Les femmes ont un utérus. Quand il naît, quand elles ne sont pas enceintes, ça envoie des vapeurs au cerveau et donc les femmes seront appelées ensuite, d'ailleurs à la suite des sorcières, seront appelées hystériques. Donc il y a une idée de la nature de la femme qui, non seulement avec ces vapeurs qui leur sont envoyées à la tête, elles sont lubriques. Donc, comme elles sont lubriques, finalement elles voudraient bien coucher avec tout le monde, mais elles ont un mari qui, heureusement, les contient. Mais justement, il y a le diable qui va satisfaire cette lubricité. Et donc, le pacte, ce qu'on ne sait pas, parce que pudiquement on n'en parle pas dans les contes pour enfants, le pacte qui se noue avec le diable, ça n'est pas simplement, et ça n'est jamais un bout de papier qu'on ne trouve jamais, c'est le fait de coucher avec le diable.
Voilà, et parce que le diable est lui-même représenté comme ayant un sexe géant. J'ai bien compris tout ce que vous me racontez, hein, Armel Lebras-Chopard, dans votre livre.
Ah, j'invente rien. Eux, ils inventent,
et
mais
donc,
pas moi.
Et donc, propre à satisfaire ces dames avec leur vapeur. Donc, au fond, c'est quand même la question de la sexualité, bien plus que la question de l'envie d'apprendre des choses, de faire de la chimie, ou la rébellion. C'était pas forcément des femmes très rebelles. Enfin, peut-être étaient-elles mal contenues par leur mari, mais c'est vraiment l'idée que seul le diable peut satisfaire certaines femmes sexuellement. C'est ça?
Le diable peut satisfaire certaines femmes, donc elles sont effectivement peu satisfaites. Ça aussi, ça apparaît en filigrane dans les aveux. Peu satisfaites de leur mari, mais après, le diable les envoie justement au sabbat où elles couchent avec tout le monde. Donc, il y a quand même des hommes qui sont sorciers. C'est pour ça que certains historiens disent un crime de femme, il y a quand même des hommes. Oui, il y a quand même des hommes. Il en faut bien pour que ça puisse finalement être être crédible. Mais quand ce sont des hommes qui, par exemple, vont au sabbat, ce sont des épouses qui les emmènent pratiquement de force. Hein. Et comme dit un des inquisiteurs, jamais on a vu un homme emmener sa femme au sabbat. Hein.
Martin Reff.
Alors, je voudrais être bien précis sur cette question. Dans le lexique d'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire la chose suivante. Carlo Ginzburg considère bien, comme vous, que la question de la sorcière est une question genrée, mais le prisme d'étude par lequel il étudie cette question genrée n'est pas le genre.
Voilà, d'accord, je crois que c'est très, que, en effet,
c'est la différence entre.
Voilà, on peut dire les choses comme ça.
Mais je crois que vous mettez le point, parce qu'il ne faudrait pas non plus dire que Carlo Ginzburg est complètement étranger.
Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, je l'ai redit, Chiara Signorini, son premier sujet d'enquête est une sorcière, et à la fois dans les batailles nocturnes et dans le sabbat des sorcières, même si ce n'est pas le titre original, c'est bien de procès de femmes qu'il s'agit, pas uniquement de femmes, mais le prisme, ou en tout cas l'enjeu épistémologique qu'il y a derrière, n'est pas du tout la question du genre. Et ça, je pense que, en effet, ça fait une différence entre vos deux approches, de fait. Mais il reste, si vous voulez, que d'une part, les déclarations des sorcières qui s'opposent aux Benedanti recoupent parfaitement les vôtres, c'est-à-dire, de fait, il y a une union avec le diable, ce dont les dames Benedanti se défendent complètement. Elles disent, nous, on fait pas du tout ça, nous, au contraire, on va essayer de dénouer ces unions diaboliques. Et par ailleurs, la question d'une femme qui serait la grande maîtresse de ces cultes est au centre du sabbat des sorcières. Je voudrais juste citer une page très brève. Hein.
Mais je vous en prie.
C'est un chapitre très important qui s'appelle « À la suite de la déesse », qui est le premier chapitre de la deuxième partie. Et voilà comment, morphologiquement, comme il le dit, hein, il détache les éléments principaux de ce culte. Des femmes, un, qui croisent et qui disent, deux, qu'elles vont la nuit, trois, à la suite de Diane, quatre, monter sur des animaux, cinq, en parcourant de grandes distances, six, en obéissant aux ordres d'une déesse comme à une maîtresse, 7, en les servant au cours de nuit déterminée, 8, tous ces éléments se retrouvent dans les abeux de Sibylla et de Pierina, sauf 4 et 5. Le nom de la déesse peut changer, etc. Les figures de femmes peuvent changer, mais c'est bien d'histoire de femmes qu'il s'agit. L'enjeu épistémologique de l'historien n'est cependant pas, je le redis, une question genrée. C'est bien plutôt la question de savoir comment structurer ces récits mythiques de sorcellerie, dont ils prouvent qu'ils s'étendent de manière tout à fait extraordinaire sur tout le continent eurasiatique. Et c'est cette permanence, en fait, qui l'intéresse dans le sabbat des sorcières. Est-ce que c'est une permanence généalogique, pardon, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver un récit premier de sorciers dont seraient dérivés tous les autres, ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à ce qu'il appelle des convergences morphologiques, c'est-à-dire dans tous ces cas de sorcières, on aurait les mêmes éléments. Voilà, c'est ça l'enjeu épistémologique de Carlo Ginzburg, bien plus que la question du genre.
Oui.
Armel Lebras,
moi, je pense que cette structuration, elle ne peut se faire qu'à partir du genre. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, ça aussi, c'est une chose qu'on ne dit pas trop, parce que les historiens étant la plupart du temps et encore maintenant masculins, c'est que au XVIe siècle, les hommes sont complètement obsédés par leur virilité, parce que la virilité, c'est la puissance. Hein. La virilité, c'est la puissance. Donc, si on regarde les costumes simplement, où ils ont les hommes ont des espèces de leggings, très souvent, ils se mettent du coton ou des chiffons à l'intérieur pour que ça soit plus gonflé. Donc, ils ont cette hantise de la virilité, et du coup, ils ont cette hantise de la panne sexuelle et de l'impuissance. Et là, il faut relire Montaigne. Et il faut relire Rabelais. Montaigne dit, mais on ne parle que de ça. Rabelais dit, mais le mari a toujours peur d'être cocu parce qu'il n'a pas finalement été à la hauteur. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, c'est le seul moyen pour les femmes de se séparer du mari. Il y a les procès en impuissance, qui sont finalement les procès en impuissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de divorcer, puisque on est dans la religion catholique, mais on peut faire annuler son mariage dans la mesure où le mariage est fait pour la procréation. Si le mari ne peut pas procréer, le mariage peut être annulé. Donc, c'est un procès à nouveau, et il va falloir des preuves. Donc on met le mari et la femme dans un lit, il y a le magistrat, Ambroise Paré par exemple a été un expert, et on voit comment ça se passe et si le mari peut accomplir son devoir conjugal. Évidemment, pendant ce temps-là, il y a la belle-mère aussi, les matrones. Enfin,
oh bah ça donne envie, hein, ça c'est sûr, d'avoir tout ce monde.
Alors, le mari l'accuse de serrer les cuisses, de l'injurier. Et évidemment, il perd absolument tous ses moyens. Donc après, le mariage est annulé. Il n'a pas pu, hein, c'est le cas de le dire. Le mariage est annulé. La femme éventuellement se marie avec quelqu'un d'autre, puisqu'elle a le droit. Lui n'a pas le droit de se marier, mais finalement, il va avoir des concubines. Alors, on arrive à des situations absolument extraordinaires de familles recomposées de l'époque, à savoir que le mari, dont le mariage a été annulé, va avoir des enfants d'une concubine, puisqu'il ne peut pas se marier. Il y en a un qui va en avoir même 7 enfants. Donc, tout d'un coup, on se dit, mais dans ce cas-là, il n'était pas impuissant. Dans ce cas-là, il y a un nouveau procès pour annuler l'annulation. Et si on annule l'annulation, ça veut dire que le mari et la femme se remettent ensemble, elle ayant eu des enfants d'un côté, lui de l'autre. Voilà, c'est très
spécifique à la France. Et ça montre aussi que la sorcière exerce une séduction sur ses accusateurs. Vous évoquiez le XVIe siècle, Jean Bodin, qui est un personnage très important pour la théorisation de l'État moderne, a participé aux accusations de sorcières, et notamment celle de Jeanne Arvilliers, la sorcière de Laon, condamnée au bûcher en 1578. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il évoque sa beauté. Parce que pour nous, les sorcières, Walt Disney et compagnie, c'est des femmes âgées et moches. Mais on a bien tort. C'est la beauté de Jeanne qu'évoque Bodin. Les traces de son ancienne beauté, teint sombre, de grands yeux brillants, d'un feu dont on avait peine à supporter la vivacité, l'éclat, un profil aquilin, une finesse de traits, des dents dont l'émail rivalisait avec la perle, des cheveux noirs comme la plume du corbeau. Elles sont terriblement séduisantes et elles sont des Ève en puissance, c'est-à-dire à la fois séduisantes et possiblement savantes, peut-être sur les choses du sexe, mais sur les autres choses. Pierre de Lancre, magistrat de l'époque, évoque le Pays Basque comme un pays de pommes. Elles ne mangent que des pommes, toutes ces femmes, comme Ève en fait. Ce sont des Ève, dit-il, qui séduisent volontiers les enfants d'Adam. Encore un mot sur tout cela, parce que c'est infini comme problème, Armelle Lebras-Chopard.
Alors, c'est véritablement un stéréotype qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, et dans les costumes d'Halloween, etc., de faire de la sorcière une vieille femme avec un nez crochu, etc. Bon, à partir du moment où il s'agit de coucher avec le diable, il préfère la chair fraîche. Hein. Donc, en général, les femmes, ça peut être des très très jeunes femmes, des jeunes filles, et la beauté de ces femmes est effectivement remarquée par les magistrats. Vous avez parlé du magistrat Pierre de Lancre au début du XVIIe siècle. Il interroge des pseudo-sorcières, et en particulier celles qui sont les reines du sabbat, qui sont les plus belles, que le diable fait asseoir à côté de lui au sabbat. Et il demande à ces femmes de danser comme elle danse au sabbat, c'est-à-dire comme il dit, cul contre cul, à l'envers, et donc il se rince l'œil assez souvent.
Allez, vous allez avoir le dernier mot, Martin Rueff, sur ces procès de sorcières.
Oui, ce qui est frappant dans ce que vous venez de raconter, c'est la manière, dans votre récit, c'est la manière dont précisément la sexualité, le rapport entre sexualité et genre, est un rapport déterminant pour expliquer la puissance d'attraction aussi de la figure de la sorcière. Et c'est vrai, je le redis, hein, que chez Carlo Ginzburg, comme chez Lévi-Strauss d'ailleurs par d'autres aspects, hein, la question du genre est seconde d'une certaine manière. Alors on peut imputer cette question à un retard de génération, mais je crois aussi c'est parce que pour eux, la sexualité et la question du genre fait partie d'un ensemble, qu'est la question de la domination. Et là, il faudrait revenir sur la manière dont ces problèmes se sont posés, hein, pour des penseurs qui ont côtoyé le marxisme et qui très souvent ont été marxistes. Et je pense qu'une un des enjeux peut-être d'aujourd'hui de la sorcière, hein, c'est en fait un des enjeux du féminisme, c'est l'interprétation de la domination, à la fois comme une question du genre, on parle d'intersectionnalité, hein, à la fois comme une question du genre et une question de classe. Et il me semble que les instruments que nous lègue Ginzburg, hein, sont parfaitement adaptés à ce que nous essayons de penser aujourd'hui, hein, comme des dominations et des phénomènes de subalternes à large échelle, qui croisent divers types d'oppressions. Hein, et je crois que les thèses de Ginsburg, hein, sont devant nous, quand bien même, comme je le disais, hein, elles n'auraient pas mis le genre au titre de critère de leurs analyses.
Merci beaucoup tous les deux, Martin Rueff et Armelle de Brachopard, pour vos analyses sur les procès de sorcières. Je précise que le générique d'aujourd'hui était Black Sabbath, il y a beaucoup de chansons de Black Sabbath, de ce groupe des années 1970, autour de 1970, qui évoque ces questions, le sabbat justement, les femmes méchantes. Nous poursuivrons tout cela cette semaine. Voici Frédéric Worms, sa chronique qui cette semaine porte sur centre et périphérie. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'image du centre est-elle centrale ? Comme pour beaucoup de termes importants dans nos vies, peut-être même pour les plus importants et pour les plus centraux, ou pour les termes les plus vitaux aussi, on ne sait pas si la notion de centre elle-même relève d'un sens propre ou d'un sens figuré. Dans quel sens est-elle employée au sens propre, plus exactement, et dans quel sens serait-elle employée au sens figuré ? C'est parfois indécidable, et pour la notion de centre, cela semble bien être le cas. Dans le cas du centre, il y a une notion claire, en tout cas, est-ce que c'est son sens propre, est-ce que c'est son sens figuré ? Il faudra le savoir. Il y a en tout cas une notion claire, c'est en géométrie. En tout cas pour un cercle. Pour un cercle, la notion de centre est simple et il faudra y revenir. On appelle centre ce autour de quoi un ensemble de points sont à la même distance. Et ces points, en fait, constituent le cercle. Et tous les points du cercle sont à égale distance de leur centre. Et le centre est donc le centre d'un cercle. Et c'est déjà un petit peu plus compliqué en géométrie toujours, dans ce domaine qui est le plus clair de tous et qui est peut-être celui où le sens devient sinon propre, du moins bien défini. En géométrie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour la droite, quel est le centre d'une droite ? Eh bien, une droite n'a pas de centre en tant qu'elle est infinie. Mais il y a un centre d'une droite dès qu'on en découpe un segment. Supposez que vous découpiez un segment de droite d'une certaine longueur. Vous pouvez en déterminer le centre de manière assez exacte. C'est le point qui est à égale distance des deux extrémités du segment que vous avez découpé. Voilà deux définitions très claires du centre, mais voilà qu'elles sont perturbées aussi, évidemment, par leur enjeu métaphorique, par leur portée d'image et d'image certainement vitale. Par exemple, le centre d'un cercle, on ne sait pas si ce terme de centre est seulement une notion géométrique abstraite ou bien s'il vient plutôt de nos vies, parce que nous appelons centre dans nos vies celui ou celle autour de qui tout va tourner. Pour nous, pour chaque être vivant peut-être, nous sommes le centre d'un monde au sens où nous considérons peut-être de manière irrésistible, peut-être de manière obligatoire ou vitale, comme le centre du monde. Tout tourne autour de nous. Mais le problème, c'est que tout tourne autour de chaque vivant, pour chacun des vivants, et peut-être pas pour les autres vivants. En tout cas, il faut se demander si le centre est d'abord une notion géométrique transférée à nos vies, et nous pensons le monde comme une série de cercles concentriques autour de nous, ou bien au contraire, si nous appelons centre dans le cercle ou dans la droite, quelque chose qui est inspiré par notre expérience vitale, quelque chose à quoi nous donnons une importance extrême, qu'il s'agisse justement du centre d'un cercle avec tous ses points équidistants, une sorte d'image d'égalité, ou bien d'un centre écartelé en quelque sorte entre deux extrémités. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le centre a un enjeu vital et qu'un monde sans aucun centre a quelque chose de presque impensable, comme dans la célèbre phrase de Pascal qui lui invente un monde avec seulement des centres et aucun cercle. On le sait, un monde dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Il faut aussi se souvenir que le centre ordonne le monde pour le meilleur ou pour le pire. On parle de sa circonférence, mais aussi de sa périphérie. Et alors cela devient politique et plus précisément urbain. Peut-être appelle-t-on ville un endroit où il y a non seulement un centre, car il y en a partout, même dans les villages, mais un centre qui est au centre d'un espace si grand que certains sont éloignés de lui au point de s'y perdre. On appelle ça la banlieue ou la périphérie. Il y a une justice spatiale à faire que tout le monde soit près au moins du centre de sa vie.
crois que c'est ma sorcière bien-aimée cette fois-ci. Merci, cette fameuse série des années 60. Merci Frédéric Worms, merci à nos invités d'aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Sébastien Royer. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.